Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi soir, 30 novembre 2020. Dans quelques instants, nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. L'Iran exhorte la communauté internationale à renoncer à ses doubles standards dans la lutte contre le terrorisme et à condamner toutes les formes d'actes de terrorisme. Une raffinerie de pétrole chinoise dans la province irakienne de Salahuddin a été la cible d'une attaque à la roquette. Un incendie et des dégâts mineurs ont été provoqués. 5 combattants de Boko Haram ont été tués et plusieurs autres blessés au Nigeria lors d'opérations militaires contre les repères de la secte terroriste dans l'état de Borno. C'était les titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à renoncer à ses doubles standards dans la lutte contre le terrorisme et à condamner toutes les formes d'actes de terrorisme. Mohammad Javad Zarif a fait ses remarques dans un tweet français dimanche soir qui faisait écho à une série de tweets allemands qu'il avait postés plus tôt le même jour dans lesquels il soulignait que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh porte clairement la marque des atrocités commises par le régime israélien. Les terroristes ont assassiné un grand scientifique iranien. Cette lâcheté avec de sérieux signes du rôle d'Israël illustre le bellicisme de ses auteurs désespérés. L'Iran appelle la communauté mondiale, dont l'Union européenne a abandonné le double standard et condamné ce terrorisme d'État, a écrit Zarif sur son compte Twitter. Le scientifique iranien qui dirigeait l'Organisation pour l'innovation et la recherche défensive du ministère de la Défense a été visé vendredi dans une attaque à plusieurs volets impliquant au moins une explosion et des tirs de mitrailleuse par un certain nombre d'assaillants dans la ville de l'Absalt du comté de Damavand, dans la province de Téhéran. Dans son tweet allemand, le haut diplomate iranien a déclaré que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien porte la marque claire des atrocités commises par le régime israélien qui a déjà assassiné un certain nombre d'élites scientifiques iraniennes. Le Parlement iranien a adopté dimanche une motion de double urgence nécessitant une action stratégique pour la levée des sanctions après l'échec des partis européens du plan global d'action conjoint à satisfaire les intérêts de Téhéran et à la suite de l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Les députés iraniens ont ratifié dimanche le projet de loi intitulé « La mesure stratégique pour la levée des sanctions ». Cette motion qualifiée de double urgence a été ratifiée par 232 voix sur un total de 246 députés présents à la session. Le président de la commission parlementaire de la sécurité nationale et de la politique étrangère, Mojtaba Zonour, qui avait proposé la motion, a déclaré que les sanctions contre l'Iran étaient censées être levées dans le cadre du plan global d'action conjoint, mais qu'elles avaient été réimposées par les États-Unis, bien que l'Iran se soit pleinement engagé à respecter l'accord. Plusieurs rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique ayant confirmé que Téhéran s'y était conforme. Les législateurs iraniens ont également cité l'assassinat par les États-Unis du commandant de la force ROTS du CGRI, le général Rassem Soleimani, les actes de sabotage sur le site nucléaire iranien de Natanz, les tentatives illégales des États-Unis de rétablir les sanctions des Nations Unies contre l'Iran, les complots de Washington pour perturber la coopération étrangère avec l'Iran et l'assassinat du scientifique atomique Mohsen Fakhrizadeh. Selon le projet de loi, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique sera tenue de produire et de stocker chaque année au moins 120 kg d'uranium enrichi d'un niveau de pureté de 20% dans l'installation nucléaire de Fordow et de répondre aux demandes industrielles pacifiques du pays avec de l'uranium enrichi à plus de 20%. Des sources d'information ont rapporté dimanche soir comment une roquette Katyusha avait frappé une raffinerie de pétrole chinoise dans la province irakienne de Salaati. Des responsables irakiens ont déclaré à Reuters qu'une roquette avait frappé une petite raffinerie chinoise dans la province, provoquant un incendie et des dégâts mineurs. Des photos et des vidéos sont également publiées sur les réseaux sociaux confirmant l'incendie de la raffinerie. The Voice of Iraq a également signalé que la raffinerie ciblée était la raffinerie de Baïji. L'attaque à la roquette contre la raffinerie n'aurait fait aucune victime. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque. Récemment, le gouvernement irakien est sous pression pour qu'il annule les contrats avec la Chine. Lors de sa visite en Chine l'année dernière, l'ancien gouvernement irakien, présidé par Adel Abdelmati, a signé un important mémorandum d'accord avec la Chine dans le domaine des projets économiques et des transports, etc. Les médias saoudiens ont rapporté dimanche soir qu'un officier saoudien avait été tué. Il aurait été tué sur le champ de bataille. Les circonstances et le lieu de la mort de cet officier n'ont pas été rapportées. L'information vient confirmer les propos des experts des questions militaires et stratégiques du Yémen, dont Aziz Rached, qui ont toujours prévenu que l'armée yéménite disposait d'un grand potentiel pour soutenir sa position politique qui découle des changements régionaux et internationaux et avait atteint un point où elle pouvait déconcerter l'Arabie saoudite avec un seul missile. Le mouvement Ansarallah a récemment réalisé une avancée considérable dans la région sud de l'Arabie saoudite à la suite d'une opération majeure dans la région d'Al-Zahra de la province de Najran, a rapporté le journal en ligne Al-Masdar News, selon lequel les forces armées conjointes yéménites se sont emparées de plusieurs zones à l'intérieur de la province de Najran après avoir pris des mesures contre les forces pro-Hadi et leurs alliés le long de la frontière yéméno-saoudienne. Des forces démocratiques syriennes, FTS, soutenues par les forces d'occupation américaines, ont enlevé un nombre de civils, dont des femmes, à l'entrée sud de la ville de Hasak. Des sources locales ont fait noter aux correspondants de l'agence de presse officielle syrienne Sana que des hommes armés de la milice FTS avaient dressé des barrières à l'entrée sud de la ville de Hasak et enlevé un nombre de civils, dont des femmes, et les avaient dirigés vers une destination inconnue. Les FTS ont battu une jeune femme dans le quartier d'Azizia, l'entrée sud de la ville de Hasak, selon des sources locales. Toujours en Syrie, un enfant est tombé en martyr dimanche soir par l'explosion d'une mine abandonnée par les réseaux terroristes dans le village d'Abu Araj, alentour de Salamiya, au nord-est de Hama, a annoncé une source au commandement de la police de Hama à Sana. Ouvrant la page de l'actualité africaine, 5 combattants de Boko Haram ont été tués et plusieurs autres blessés au Nigeria lors d'opérations militaires contre les repères de la secte terroriste dans l'état de Borno. nord-est du pays, a déclaré dimanche Bernard Onyeko, un porte-parole de l'armée nigériane. Les raids ont été effectués le 27 novembre, a-t-il indiqué, ajoutant que l'armée continuait à nettoyer les enclaves de Boko Haram dans la région instable du nord-est. Les cinq terroristes ont été tués lors d'opérations ayant visé les villages de Garal et Boulangesa, ainsi que la ville de Boulka, a-t-il précisé à Chinois. De nombreux terroristes blessés par balles se sont enfuis dans la brousse pendant les raids, a-t-il poursuivi, confirmant que ces derniers visaient à déloger les membres restants de Boko Haram de leurs repères dans la région. Un mois après la conclusion d'un accord militaire entre les parties en conflit en Libye, les forces de Khalifa Haftar continuent de le violer. Alors que l'accord prévoyait le retrait des forces de Khalifa Haftar de Sirte et d'Al-Jufra, ces dernières ainsi que les miliciens étrangers ont été redéployés dans l'ouest et dans le sud de Sirte. Dans le même temps, le comité militaire mixte 5+5 s'est réuni à son siège permanent pour contrôler le bon déroulement du cessez-le-feu en Libye. L'accord prévoit l'instauration à part entière du cessez-le-feu, le retour des forces opérant à Sirte et Al-Jufra à leur camp et l'expulsion des mercenaires de Libye pendant 90 jours. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Savant iranien assassiné, Israël a laissé des traces. Malgré leur silence, les sionistes ont laissé des signes qui indiquent tous leur présence directe et leur implication dans l'assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh. Avec un long antécédent d'animosité envers la République islamique d'Iran et les alliés de la résistance, il ne fait aucun doute que l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh a été mené sous la direction du service d'espionnage sioniste, le Mossad. Certes, les États-Unis ont été sérieusement impliqués dans cette action, mais tous deux, Israël et USA, sont restés silencieux et garderont le silence pendant longtemps. Pourtant, les signes qui indiquent l'implication de ces deux régimes terroristes dans l'assassinat du scientifique iranien sont évidents. À minuit, le samedi 28 novembre 2020, The Times of Israel a publié un rapport sur l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, dans lequel il a fait allusion à un point important. Le document notait que Fakhrizadeh figurait sur la liste des sanctions américaines depuis 2007 et que le nom de ce scientifique iranien figurait également sur la liste des assassinats du Mossad depuis de nombreuses années en tant que père du programme nucléaire iranien. Il est nécessaire de rappeler qu'en été 2019, le Mossad a annoncé l'inscription de trois noms sur sa liste d'assassinats. Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, le général Rassem Soleimani, commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, et Baha Abou al-Atta, commandant de l'unité de missiles du mouvement du djihad islamique. Jusqu'à présent, deux personnes figurant sur cette liste ont été assassinées. Dans un rapport publié en 2012 par le site Israel Defense sur l'arrestation du docteur Saïd Mojtaba Atarudi aux États-Unis pour achat d'équipements de laboratoires sensibles, l'armée israélienne a cité le nom du docteur Fakhrizadeh à la tête d'un institut dont le docteur Atarudi était membre. Un mois avant l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, le site militaire Israel Defense lié à l'armée israélienne cite un rapport du groupuscule terroriste Dimon Aferin avait prétendu que malgré les sanctions, l'Iran poursuivait un projet de bombe nucléaire dont le docteur Fakhrizadeh était l'architecte. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de justification médiatique sioniste qu'il mène toujours avant l'assassinat physique d'une personnalité pour convaincre leur opinion publique, afin de présenter cet assassinat physique comme une mesure logique et correcte. Une telle démarche a été également menée par les sionistes avant l'assassinat du général Soleimani depuis 2015. Et depuis lors, en diffusant des vidéos du général Soleimani sur diverses chaînes, ils l'ont décrit comme un facteur d'insécurité en Israël. En 2018, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prétendu que l'Iran continuait de développer son équipement nucléaire pour acquérir une bombe nucléaire lorsqu'il a prétendu que le Mossad avait eu accès à de grandes quantités de documents nucléaires iraniens et les avait transférés à Tel Aviv. Cependant, le spectacle de Netanyahou n'a pas convaincu l'Europe et l'AIOA, qui ont déclaré qu'ils étaient au courant depuis 2003 de l'arrêt d'un projet qui pourrait aboutir à la bombe nucléaire et que les informations de Netanyahou n'étaient pas chose nouvelle. Netanyahou a mentionné un nom lors de ce spectacle télévisé, Mohsen Fakhrizadeh, mais la phrase qu'il a prononcée après était plus importante. Il a dit « Mémorisez son nom ». Dans un article daté du samedi 28 novembre, Seth J. Frenzman, un spécialiste des questions de sécurité pour le journal israélien Jerusalem Post, a qualifié cet assassinat de symbolique, sans manquer de dire qu'il était porteur d'un message clair pour tous les scientifiques nucléaires iraniens. Cette action à Téhéran avait un message très clair selon lequel quiconque ayant des liens avec le système nucléaire iranien ne sera plus en sécurité, a-t-il dit. Cette menace sérieuse d'un écrivain sioniste effronté est une allusion implicite au terrorisme présenté par un régime terroriste. Quoi qu'il en soit, l'expérience historique a montré que les sionistes vont reconnaître l'assassinat du docteur Fakhrizadeh dans quelques années. Outre les mesures de sécurité et les efforts de renseignement pour punir les auteurs et les exécuteurs de cet assassinat, des poursuites judiciaires doivent désormais être engagées auprès des instances pénales et judiciaires internationales afin qu'on puisse traduire en justice le coupable et l'auteur principal.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 29 novembre 2020. Un haut responsable de la défense iranienne, vice-ministre de la Défense et président du département Recherche et Innovation du ministère iranien de la Défense, le savant atomiste Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné vendredi dans l'après-midi, près de la capitale Téhéran, dans une attaque terroriste. L'islam d'Iran a promis une vengeance terrible. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a exhorté les autorités compétentes à poursuivre sérieusement l'affaire et à infliger une punition définitive à ceux qui ont ordonné et perpétré ce crime odieux. L'honorable Ayatollah Khamenei a également appelé les responsables à continuer les activités techniques et scientifiques du martyr Fakhrizadeh. Par ailleurs, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a souligné que ce crime démontrait le bellicisme désespéré, en effet, de ses commanditaires. Mais aussi, M. Zarif a appelé les organisations internationales, la communauté internationale et en particulier l'Union européenne à mettre fin à leur politique de deux poids, deux mesures et à condamner en effet fermement cet acte terroriste. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle action terroriste ayant visé un prestigieux scientifique iranien. Les conséquences de cette action terroriste, mais aussi et surtout la riposte et la réaction de la République islamique d'Iran. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'entité sioniste vient de placer en alerte maximale l'ensemble de ses ambassades à travers le monde, mais il a tort de croire que l'Iran s'en prendrait à des représentations diplomatiques sionistes, si tant est que ce mot ait un quelconque sens une fois rapporté à la petite dimension israélienne. En effet, en termes d'ambassade sioniste, ce sont des filiales du Mossad, principal suspect de l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie au physicien atomiste Fakhrizadeh le vendredi 27 novembre, alors qu'il circulait à bord de sa voiture, non loin de Téhéran, accompagné de sa femme et de ses gardes du corps. Dès les premières heures, le ministre iranien des Affaires étrangères a fait état des indices qui plaident en faveur de l'implication d'Israël, ce sur quoi ni Netanyahou ni autre composante de l'entité sioniste ne font d'ailleurs le mystère, le premier ministre israélien ayant déjà cité le nom du scientiste comme étant la cible des brigades de terreur sioniste. D'où ce message très clair du commandant en chef des forces armées iraniennes, l'ayatollah Khamenei, qui suit « L'éminent savant du nucléaire et de la défense du pays, Mohsen Fakhrizadeh, a été tué en martyr par des mercenaires à la solde, des criminels, qui tuent sans pitié. Ce fut une personnalité scientifique hors pair qui a sacrifié sa vie pour le progrès de la nation, progrès durable. » Sa mort en martyr est bien la récompense qu'il méritait auprès de Tout-Puissant. J'appelle par conséquent tous les responsables du pays à entreprendre de toute urgence deux mesures importantes. D'abord, punir irréversiblement les auteurs et les commanditaires de ce crime abject et ensuite, poursuivre les travaux scientifiques et techniques qu'a entamé le martyr Fakhrizadeh qu'il a mené d'une main de maître. La mort en martyr est une bénédiction qui mérite d'être félicitée. Je présente toutefois mes sincères condoléances à la famille du martyr, ainsi qu'à la communauté scientifique du pays, à ses collègues et ses élèves, et que Dieu lui accorde la place qu'il mérite. Double directive, punir les commanditaires et poursuivre l'œuvre atomique du martyr. Ramené à la lettre de l'ambassadeur d'Iran ce vendredi 27 novembre à l'adresse de l'ONU, plus d'un analyste estime que la riposte iranienne est pour pas très longtemps. Auparavant, les experts avaient que l'Iran pourrait frapper dans 72 prochaines heures.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Madame franco-syrienne des questions internationales, Maître André Chamy, juriste international depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bonjour à vous ainsi qu'à vos téléspectateurs, à votre équipe et à votre invité.
Maître Chamy, alors un nouvel acte terroriste, un nouveau crime commis justement par... ceux qui ont toujours cherché depuis les 40 dernières années à empêcher en effet la marche en avant et le progrès scientifique et technologique de la République islamique d'Iran. Alors, le vice-ministre iranien de la Défense, l'éminent scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, qui a été tué en martyr vendredi dans l'après-midi. Si on remonte en arrière depuis 2010, alors... à 5 ou 6 scientifiques nucléaires iraniens assassinés lâchement par les terroristes. Qui se trouverait, pourrait se trouver derrière cet acte terroriste, cet acte criminel, Maître Chamy, et dans quel objectif justement le martyr Fakhrizadeh a été assassiné par ces terroristes, Maître Chamy?
Vous savez, concernant les responsabilités, nous verrons au fur et à mesure qui serait, on va dire, celui qui va revendiquer si quelqu'un revendique. Mais il n'en reste pas moins que nous avons, si moi est bonne, le New York Times qui annonce déjà qu'il y a eu une combinaison de la part des Américains et des Israéliens par rapport à cet assassinat-là. Et par conséquent... Il y a quand même des éléments qui plaident en faveur de l'accusation portée tant contre les Américains que contre l'entité sioniste. Mais au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle en droit à qui profite le crime. Et évidemment, ce crime ne profite qu'à ces deux partenaires et qui sont partenaires dans la criminalité mondiale, c'est-à-dire les États-Unis et l'entité sioniste. Et aujourd'hui, c'est un acte supplémentaire qui se rajoute, si j'ose dire, sur le compte qui n'est toujours pas soldé entre la République islamique d'Iran et l'entité sioniste, parce qu'il y a encore des comptes à régler. Il n'y a pas que le martyr Farizadeh, mais il y en a d'autres. Et il y a également les attaques contre la présence iranienne en Syrie. Il faut regarder l'addition et il faut regarder le moment et les moyens à déployer pour venger ces actes qui portent atteinte à la République islamique d'Iran et aux hommes qui défendent les intérêts et l'avenir de la République islamique d'Iran. Et nous sommes aujourd'hui dans cette perspective-là. Les Israéliens et les Américains n'ont pas encore compris que le terme de vengeance, moi je ne l'aime pas, mais en réalité la riposte viendra. Et la question est de savoir c'est dans quel calendrier. Et ce ne sont pas les Américains ou les Israéliens qui fonctionnent le calendrier, c'est la République islamique d'Iran et ses alliés qui ont toujours pris l'engagement de fixer leur propre calendrier en fonction de leur timing, en fonction de leurs intérêts et en fonction des personnes qu'ils auraient choisies ou des intérêts qu'ils auraient choisis pour assurer cette riposte. C'est la raison pour laquelle je parle de comptes qui ne sont pas soldés et l'Iran non seulement se réserve par des propos péremptoires comme quoi il pourra un jour se venger, ce sont des mots et des moments qui vont être choisis et des actes qui vont être choisis en fonction du degré que l'Islamique d'Iran aura choisi pour contrebalancer ses attaques menées contre ses intérêts et contre les hommes qui la représentent. C'est une question de temps, et c'est une question de moment, et c'est une question de personne. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le plafond de verre est cassé, c'est-à-dire il n'y a plus de limite, il n'y a plus dans l'entité sioniste qui soit à l'abri des menaces de la République islamique d'Iran. J'ai envie de dire, y compris à Netanyahou, que dorénavant, il n'a qu'à regarder derrière lui à chaque fois qu'il marche, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui le surveille et qui sait où il peut se trouver, et il sait le moment où il peut être visé par une quelconque attaque. Il n'y a pas que Netanyahou, c'est l'ensemble des responsables israéliens qui sont susceptibles d'être visés. Ce ne sont pas des paroles en l'air. L'Iran a toujours promis, a toujours réalisé. Les Américains eux-mêmes l'ont appris à leurs dépens sur la base de Al-Assad. Et bien entendu, ce n'est pas le dernier art. Et d'autres viendront, mais encore une fois, c'est la République islamique d'Iran, les alliés qui choisiront le moment et l'endroit.
Pour ces précisions, Maître Chami, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Paris pour rejoindre Mme Aïssa Hamidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Hamidani, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation et bonjour à M. Chami et à l'ensemble de l'équipe Press TV et de tous les spectateurs de Press TV. Ce que je voudrais d'abord, c'est présenter toutes mes condoléances et tout mon souhait et paix à l'âme de M. Sarifzadeh. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple iranien et au gouvernement iranien. Ceci en mon nom et au nom du réseau que je préside, le réseau des scientifiques syriens. Donc, la perte de cette personne est vraiment une perte pour l'ensemble de l'axe de la résistance, au même titre que la perte et le vil assassinat du général Qassem Soleimani. On sait que de toute façon, ce sont les Américains et les Israéliens. Alors, l'état d'occupation israélien, surtout avec la folie actuelle, ils sont en train de taper de tous les côtés et ils sont dans la peur et que les États-Unis, avec la chute de Trump, si je peux dire, reprennent les accords sur le nucléaire iranien. Donc ça, c'est déjà un point, et donc il faudrait, effectivement, c'est un acte non seulement de vil assassinat, mais c'est aussi un acte de politique qui permet de un non-retour, en fait, de la, au niveau de la politique de l'axe de la résistance, un non-retour à la, aux accords iraniens, alors que finalement, tous les Européens expriment leur volonté de revenir à l'accord pour le nucléaire iranien. Et il n'y a que, effectivement, Israël et les États-Unis de Trump qui refusent ceci. C'est toute la folie et la peur que Netanyahou a, que par le pouvoir Biden, il y ait un retour à cet accord. Je crois que, de toute façon, c'est un assassinat qui est absolument odieux, horrible, et je pense effectivement que l'Iran va le venger et va riposter de la manière qu'il faut, mais pas seulement l'Iran, mais aussi la totalité de l'axe de la résistance. Je pense que ça sera le cas effectivement au niveau du Liban, le cas au niveau de la Syrie et au niveau du Yémen. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a eu quand même une rencontre très complice en fait entre le prince Mohammed Ben Salman et Netanyahou avec le chef Anium quelques jours, que le jour même il y a eu un missile qui tombait sur les bases aussi, c'est le centre de distribution, donc en fait c'est une riposte aussi de la pas seulement de l'axe de la résistance, mais une riposte des Yéménites, hein, qui pour arrêter la guerre en fait et pour arrêter l'agression saoudienne contre le Yémen. En fait, il y a toutes ces transformations rapides dans la région que mènent Trump et Netanyahou. Et poussant les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Arabie Saoudite à pactiser avec Israël pour soi-disant soutenir Israël et aussi à multiplier aussi les agressions contre les Yémen.
Merci, Madame Hélène.
Et contre les résistances, en fait, contre l'axe de la résistance.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Chami, revenons au positionnement de l'Europe, de la communauté internationale, soi-disant communauté internationale. Pourquoi, dans ce cas précis, alors les pays européens ont appelé l'Iran à la retenue, pourquoi ils se sont abstenus, ils se sont refusés en quelque sorte à condamner ouvertement cette action terroriste?
Vous savez, le courage politique n'est pas une qualité fondamentale dans le monde occidental. Aujourd'hui, le courage politique ne fonctionne que dans un sens. Et moi, je me rappellerai toujours de la guerre qui a été menée contre le Liban en 2006. Personne n'a condamné cette agression. On a juste considéré que c'était disproportionné, c'est-à-dire l'agression était méritée, mais un peu trop. Et là, nous sommes dans cette configuration, c'est-à-dire en quelque sorte, on légitime l'action israélienne au profit, au prétexte, pardon, que les Israéliens sont en train de se défendre par l'idée de briser l'élan du nucléaire iranien. Et en même temps, on appelle les Iraniens à se retenir par rapport à toute une riposte. C'est parce que, en réalité, on considère que l'attaque israélienne, je dis bien dans le message subliminal des Européens, que l'attaque israélienne est une attaque légitime, proportionnée par rapport à la menace qui viserait l'entité sioniste. On ne considère pas toujours ce type d'attaque comme une attaque à une souveraineté d'un pays menée par un pseudo-État, et ce pseudo-État mène la terreur autour de lui, au Liban, en Syrie, et maintenant c'est un acte terroriste qui est mené à l'intérieur du territoire iranien, qui aurait mérité une réponse immédiate, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur une période d'équilibre, c'est-à-dire, est-ce que je déclenche une guerre qui m'aurait été dictée par les Israéliens à un moment que je n'aurais pas choisi et par lequel je vais être engagé dans une guerre qui pourrait avoir des conséquences que je ne souhaite pas pour l'instant. C'est-à-dire, c'est la question de la conséquence de toute attaque qui est visée aujourd'hui par les Iraniens. On ne veut pas faire d'acte inconsidéré parce qu'on ne veut pas laisser le choix des armes et le choix du moment et le choix de l'endroit à l'ennemi. C'est moi qui dois choisir le moment, l'arme et l'ennemi, et bien entendu l'endroit où je viserai l'ennemi. Et c'est aujourd'hui cet équilibre-là qui est conservé par les Iraniens. Ce que diraient les Européens importe peu, moi je le pense profondément, parce que les Européens n'ont jamais brillé par leur courage politique par rapport aux attaques israéliennes à travers le monde. Regardez voir ce qui se passe en Syrie, c'est un État souverain, tous les jours il y a des attaques israéliennes, personne ne dit rien, tous les jours il y a des attaques à la souveraineté libanaise par le survol du territoire, que ce soit en terre, en mer ou par des drones ou par même des incursions, personne ne réagit et personne n'a l'air de s'émouvoir alors que tous les jours l'ONU est saisie de plaintes de la part de l'État libanais ou de ses représentants. Par conséquent, le courage ne doit pas compter dans notre analyse politique de la part des Occidentaux. Il faut juste compter sur soi-même et savoir comment réagir en tant qu'axe de la résistance en choisissant encore une fois, je me permets de me répéter, le moment, l'endroit et les objectifs. Parce qu'il y a un objectif final qui est à atteindre et c'est ça qui compte.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Mme Midani. Mme Midani, selon de nombreux observateurs, les commanditaires de l'assassinat du martyr Fakhrizadeh chercheraient à déclencher une guerre à part entière dans la région. Bien sûr, tout le monde sait à qui profiterait justement la déstabilisation de la région. Et bien entendu, la riposte de l'Iran ne tardera pas à venir. Mais comme l'a promis d'ailleurs le leader de la révolution islamique, mais d'autre part, l'honorable Ayatollah Khamenei a aussi appelé en effet à poursuivre, à continuer les activités techniques et scientifiques du martyr Fakhrizadeh. Et aujourd'hui, justement, lors de la séance du Parlement, une mesure stratégique a été adoptée qui engage le gouvernement à poursuivre justement sérieusement l'enrichissement d'uranium, c'est-à-dire bien sûr poursuivre le programme nucléaire iranien. Donc là, il paraît que justement cette erreur de calcul, à la fois dans le domaine politique mais aussi stratégique, risque de se retourner contre les commanditaires, les responsables et les auteurs de l'assassinat du martyr Fakhrizadeh, Madame Midani.
Absolument. En fait, à chaque attentat ou à chaque assassinat, en fait, on découvre que de toute façon, ce ne sont pas des personnes isolées, en fait, telles que, par exemple, le général Qassem Soleimani, il n'était pas tout seul, mais aussi le grand chercheur Fakhrizadeh, aussi. Ce sont des institutions et des écoles en fait qui forment tant d'autres personnes. Le programme de recherche scientifique en Iran, il n'est pas lié, bien sûr, c'était le grand leader qui a mis en place, qui a approfondi la recherche scientifique et l'évolution, mais de toute façon, il y a aussi une armée de chercheurs scientifiques derrière lui qui vont continuer sa mission. De la même manière, il y a eu par rapport à Qassem Soleimani, il y a aussi des milliers de personnes qui continueront ce combat. Le travail n'est pas un travail de personnes isolées, c'est un travail institutionnel et qui vise effectivement une défense stratégique à long terme et une évolution à long terme. Donc, ça ne fera que augmenter la détermination à la fois du peuple iranien, mais aussi des peuples de l'axe de la résistance pour asséner quand il le faut justement aux ennemis, mais continuer à faire progresser la science et à devenir pas seulement par rapport aux armes, mais autonome sur le plan de tous les secteurs, de tous les domaines, aussi bien les domaines de l'alimentation, du développement industriel, du développement agricole, du développement des médicaments, et donc tout ça en alliant à la fois la recherche scientifique et la production, mais aussi en s'appuyant sur les plus grandes nouveautés scientifiques. Ceci, je peux dire, en fait, quand on voit le développement à l'ombre de l'embargo depuis 40 ans de l'Iran, on ne peut que lever son chapeau haut pour dire ce peuple à l'ombre de l'ensemble des embargos et du blocus, il a quand même réussi à faire ce grand chemin. Et c'est le cas de tous les peuples résistants. On peut voir Cuba aussi, qui, à l'ombre de ce blocus aussi, qui date des années 60, qui ont réussi à se développer. En Syrie, nous réussirons à nous développer aussi, malgré le blocus et l'embargo. Et au Yémen aussi, malgré la guerre, ils ont réussi à développer et leur propre armement. Donc, et actuellement, ils continuent sur le plan médical aussi, malgré les embargos. Donc, ça ne fait qu'augmenter la détermination des peuples et, voilà, de ce fait, leur victoire en même temps.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Ghazvin est une province iranienne de l'ouest du pays. Selon d'anciennes sources historiques, la fondation de Ghazvin date de la période Mède, au 9e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la région montagneuse du sud et du sud-ouest de Ghazvin appartenait au territoire Mède. Cependant, les fouilles archéologiques menées dans la région, notamment à Sarezabad, près de Boïn Zahra, montre que Ghazvin était déjà habité durant les 4e et 5e millénaires avant Jésus-Christ. Ghazvin est peuplé majoritairement de Persans qui parlent le persan avec l'accent caractéristique de Ghazvin. Mais y vivent également des Kurdes, des Lors, des Gilaks, des Tats et des Azeris Shahsavan, dont les langues sont aussi parlées. Selon plusieurs historiens, les Kurdes et les Lors de Ghazvin y ont émigré durant la période Safavide, en particulier sous le règne de Shah Abbas. Cependant, des anthropologues estiment que cette migration est plus récente et aurait commencé au XVIIIe siècle, sous le règne du fondateur de la dynastie Rajar, Agha Mohammad Khan. La tribu nomade des Shahsavan, elle, se représente dans cette province depuis la fin du XVIIIe siècle, avant l'arrivée de l'islam et même jusqu'à la période de l'invasion mongole. Le pahlavi était la langue dominante de la région. Aujourd'hui, ce sont le persan, le tati, le marari, le kurde, le lori, le turc azéri et les romanloui que l'on entend dans cette province. Le persan est la langue dominante de la ville de Qazvin et de l'ouest de la province. Les Qazvini parlent le persan avec un accent caractéristique de la famille des accents du nord et du nord-est du pays. Le tati est une autre langue de la province de Qazvin qui se démarque du tati pratiqué plus au nord. Selon les linguistes, le tati appartient à la famille des langues médianes anciennes. En général, la proximité historique et géographique de cette région avec le Mazandaran, autrefois nommé le Tabaristan, a permis l'association des parlers régionaux avec les parlers tabari du Mazandaran et la langue gilaki parlée dans le Gilan. Des recherches linguistiques ont clairement mis en évidence les ressemblances et les emprunts entre ces langues régionales. Le tati s'étend à l'est, au nord et au nord-est de la province, notamment à Roudbar ou à Alamout. C'est la langue parlée dans les zones avoisinant les provinces voisines, c'est-à-dire Alborz, Mazandaran et Gilan. Qazvin, capitale de la calligraphie en Iran. De par son rôle dans l'histoire de la calligraphie et le nombre de maîtres calligraphes qu'elle a produits, Qazvin a naturellement pris le titre de capitale de la calligraphie persane. Cette province a toujours joué un rôle important dans le développement de cet art et continue d'être un pôle de la calligraphie mondiale. Citons parmi les grands maîtres calligraphes originaires de cette ville, Mir Emad Hassani Qazvini, l'un des maîtres indiscutés du style Nastaliq. Citons également parmi les contemporains et les modernes, Mirza Mohammad Hossein Seyfi Qazvini, surnommé Emadul Kotab. Également un grand maître du style Nastaliq et disciple de Mirza Kalhor, qui développa et diffusa en plus de son propre style celui de son maître. Parmi les contemporains, nous pouvons aussi mentionner les maîtres Ali Akbar Kaveh et Ibrahim Bouzari. Un autre calligraphe de Qazvin, Mirza Mohammad Ali Khiaraji Qazvini, est l'inventeur et le calligraphe du premier oiseau Toghra de Bismillah. Citons également Abdelmajid Talerani, Malik Mohammad Qazvini, Mir Ibrahim Qazvini, Mir Mohammad Amin Hassani Seyfi Qazvini ou encore Yahya Qazvini. Les maîtres cités ainsi que de nombreux autres ont fait de Qazvin une ville réputée pour son art. Ainsi aujourd'hui, chaque année, des événements ponctuels comme des festivals, des biennales ou des expositions de calligraphie se tiennent dans cette province fière de sa réputation. Le développement extraordinaire de la calligraphie à Qazvin a commencé dès la période tahiride et a connu son apogée classique à l'époque safavide. Quelques fêtes et traditions de la province de Qazvin. La fête de la grenade. La fête de la grenade est spécifique à la région de Tarom et se tient de fin septembre à début octobre. Durant cette période, la récolte de la grenade se fait en grande pompe avec une procession d'agriculteurs qui se déplacent d'un verger à l'autre pour cueillir ce fruit à la signification particulière dans la culture iranienne, et ce, au son d'instruments musicaux traditionnels tels que le dayere, le sorna et le dohol. Cette fête annonce le début de la récolte et il est mal vu de cueillir ses fruits avant cette cérémonie. La fête de la noisette. La noisette est l'une des productions agricoles importantes de la région montagneuse et froide d'Alamut et chaque année, la fête de la noisette s'y tient au début du mois d'août. De même que pour la fête de la grenade, les cultiveurs organisent des processions et se rendent dans tous les vergers pour annoncer le début de la récolte d'une façon spéciale. La cueillette commence avec la récitation de poèmes. La fête de la noisette est aussi un festival amoureux, puisqu'il est coutumier de cueillir aussi séparément, en particulier pour les jeunes femmes, des noisettes qui serviront à la fabrication d'un collier bucolique nommé le golvan, que l'on offre à l'être aimé plusieurs mois plus tard, au cœur de l'hiver. Le Nourousrani est une cérémonie musicale et communautaire qui a eu lieu à la fin de l'année et a pour objectif de souhaiter la bienvenue au nouvel an. Les chanteurs du Nourousrani sont traditionnellement originaires d'Alamut et de Talikan. Ils s'avancent dans les rues et ruelles des villes et villages par groupes de 2 à 4 et récitent en chantant des poèmes en annonçant régulièrement l'arrivée de l'an nouveau. En entendant le chant des Nourousran, les habitants sortent de leur maison pour leur donner la réplique et leur offrent des étrennes et des pâtisseries. Le Cheshme Khatun est une cérémonie de vœux de pluie. Elle peut se faire individuellement ou en groupe. Pour faire un vœu d'averse, on monte sur le toit avec un bol d'eau dont le contenu est projeté en l'air avec une cuillère au fur et à mesure de la prière. Et enfin, Kolour Andazan. Cette coutume qui se perd de plus en plus aujourd'hui, même dans les milieux ruraux, se tient un jour avant le début du mois de Ramadan. Durant cette journée, les villageois se rendent chez des voisins ou des amis en s'équipant de victuailles à distribuer et tous s'installent ensuite ensemble pour raconter des histoires, jouer à des jeux de société ou autres, festoyer, plaisanter et passer un bon moment. C'est une journée festive qui prépare les gens corps et âme au mois du jeûne. Cette tradition n'est pas propre à Razvin et se pratique dans d'autres régions de l'Iran. On la connaît ailleurs sous le nom de Golhandadi, sourire comme une fleur. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre écoute et à la prochaine fois. Thank you.